L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de victoire enseigné par un de nos orateurs invités. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Là, aujourd'hui, on va se préparer pour la parole de Dieu. Combien d'entre vous, vous avez vos épées? Amen, vous avez vos épées. Est-ce que votre foi est prête à être relâchée pour recevoir de Dieu? Amen. Bien, aujourd'hui, on a un invité spécial avec nous, le pasteur Jean Ruland, qui a été pasteur des années de temps dans la région de Québec, à Québec en fait, et puis dans d'autres régions du Québec. Il a implanté plusieurs églises avec son épouse, et puis ils sont des pionniers, vraiment dans le message, si on veut, certainement du plein évangile, un message de foi, de victoire, mais en même temps, un message qui est accompagné par la présence du Saint-Esprit. Et combien d'entre vous ici, vous aimez ça, la présence de Dieu? Amen. Si vous aimez ça, la présence de Dieu, de l'Esprit de Dieu, bien aujourd'hui, on veut ouvrir nos cœurs pour recevoir le message que Dieu a déposé dans le cœur du pasteur Ruland. Et j'aimerais ça ce matin, si on pouvait, s'il vous plaît, l'accueillir chaleureusement, le pasteur Jean Ruland et son épouse Violette, qui sont avec nous ce matin. Amen. Soyez bienvenue, pasteur Ruland. On va faire comme notre habitude ici. On va demander à tout le monde d'étendre les mains vers vous. Et puis, je vais vous demander de répéter après moi. Seigneur Dieu, nous recevons cet homme de Dieu comme un don de toi, au nom de Jésus. Amen. Soyez béni, pasteur Ruland. Et il vient équiper, lui, avec un ordinateur. Wow! On est impressionnés. Soyez béni, pasteur Ruland.
Je me souviens d'un professeur au collège biblique qui nous avait dit, lorsque vous montez sur l'estrade et que vous n'avez plus le pincement de cœur, alors c'est le temps de vous remettre en question. Si vous montez sur l'estrade par habitude et que vous faites des choses par habitude, eh bien, ça veut dire que Dieu ne peut plus faire grand-chose. Et je dois vous avouer qu'il y a un pincement de cœur ce matin et que je suis ému d'être là devant vous. Et oui, 38 années de ministère, c'est vrai. Mais si nous n'avions pas eu la grâce de Dieu, si nous n'avions pas eu le secours de Dieu, je ne crois pas qu'on aurait pu aller aussi loin. Et je peux donner avec mon épouse toute la gloire au Seigneur parce que c'est lui qui est tout. Amen. Nous accomplissons le ministère grâce à lui et nous lui donnons toute la gloire ce matin. 38 années de ministère sans doute, avec beaucoup de bagages. Mais j'aime rester dans la simplicité et de vous dire tout simplement, avec lui, tout est possible. Avec lui, on peut faire des exploits, mais sans lui, on peut faire beaucoup d'erreurs, n'est-ce pas? Alors ce matin, eh bien, je bénis Dieu parce que, bon, hier soir, eh bien, je me suis préparé, c'est un message que je n'ai pas prêché, c'est un message que j'ai préparé pour vous ce matin, je l'ai reçu pour vous ce matin. Alors, c'est du pain frais, c'est pas quelque chose d'il y a 20 ans, c'est du pain frais que Dieu veut vous donner. Puis j'apprécie beaucoup votre invitation, j'apprécie beaucoup d'être ici avec vous. Je dois vous dire que oui, c'est de l'Église de la Victoire, et je vous sens dans la victoire. Mon épouse me soufflait à l'oreille, cette église est en train de vivre un réveil. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Amen. Maintenant, ce que je vais vous enseigner ce matin, eh bien, vous allez vous rendre compte que rien n'est facile et que l'ennemi, évidemment, lui, ne chôme pas. Et qu'il travaille fort pour vous déséquilibré, pour vous détruire même, je dirais, détruire votre foi. C'est ce qu'il a essayé de faire avec nous pendant toutes ces années-là. Il a essayé par tous les moyens de nous déstabiliser et puis de nous empêcher de pouvoir avancer et puis évoluer dans les choses que, ou en tout cas les œuvres que lui-même nous avait préparées. Et je peux vous dire que ce fut de bonnes œuvres. Amen. Et Dieu nous y a conduits à sa façon. Et nous avons pu accomplir ainsi donc le ministère, je dirais avec joie, avec souffrance aussi des fois. Amen. Je pense que je mentirais si je vous dirais ce matin que tout a toujours été rose. et violette. Mais nous avons vécu nos luttes, nos combats, nos difficultés. Et mon épouse a beaucoup de choses à raconter là-dessus, moi-même. Mais bon, je ne vais pas, disons, vous raconter tout cela comme ça en bloc. Je vais essayer d'inclure quand même une ou deux expériences majeures qu'on a vécues dans notre vie et dans le ministère afin d'édifier votre foi, surtout de solidifier votre foi. Ésaïe chapitre 10, verset 27, c'est le texte de départ. Et puis ensuite, il y en aura d'autres. Ésaïe, le prophète, chapitre 10, verset 27, qui dit « En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. » Père Céleste, nous te remercions parce que tu es là au milieu de nous, nous le sentons, nous le savons, et nous te demandons réellement que tu puisses saisir ces paroles que je vais prononcer et que la cible puisse être atteinte. Seigneur, que tu puisses toucher les cœurs, que tu puisses nous rejoindre au travers des mises en garde que tu vas nous faire aussi dans cette matinée, et que tu puisses nous propulser ainsi jusque dans un réveil puissant dans lequel tu nous y conduis. Que ton nom soit béni, Père, dans le nom de Jésus, et nous disons Amen. La Bible nous dit que Satan, c'est le père du mensonge. Il y a quelqu'un qui l'a su et qui le savait très bien, c'est au travers de sa propre expérience, ce fut Jésus. Nous allons lire tout à l'heure d'ailleurs à ce sujet-là. Et l'Écriture nous dit justement dans Jean chapitre 8, verset 44, « Vous avez pour père le diable. » Je ne pense pas que ça vous s'adresse à vous, j'espère. « Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Il parlait des chefs religieux, des juifs de l'époque. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur, il est le père du mensonge. Et nous savons que lorsque l'ennemi est confronté à un homme, à une femme, qui est rempli de l'Esprit de Dieu et sous l'onction de Dieu, cette personne devient menaçante pour son royaume. Cette personne devient dangereuse et Jésus, évidemment, fut l'un de ces personnages illustres, le Seigneur Jésus. Fut ce personnage illustre qui a certainement été très menaçant pour le royaume des ténèbres puisqu'il a vaincu les ténèbres, il a vaincu Satan lui-même et le maître de ce royaume. Et ainsi donc, eh bien, il fut éprouvé comme vous allez l'être éprouvé, comme nous avons été éprouvés. Et on s'interroge parfois, pourquoi certaines choses nous arrivent? Pourquoi nous vivons certains événements et pourquoi on les vit parfois aussi intensément et où on se dit, jamais nous pourrons nous en sortir. Et ce fut le cas, bon, pour Jésus, évidemment, il avait la réplique, et béni soit son nom. Vous trouvez la tentation dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 4, je vais vous le lire, je pense que c'est très important. Je vais vous lire ces versets-là. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Alors voyez-vous, l'ennemi est arrivé au bon moment, hein, lorsque Jésus eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui dit, si tu es fils de Dieu, remet en question évidemment le titre, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains, et je peux vous dire que cela aurait été facile pour le Seigneur de le faire. N'est-ce pas lui qui a plus tard à multiplier les pains? Amen, et puis les poissons. Donc c'était pas... Mais lorsque ça vient de la bouche de Satan, et lorsque les défis viennent de l'ennemi, de la bouche de l'ennemi, alors il faut prendre des précautions, n'est-ce pas? Et... Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ben. Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut temple, ou le haut du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, toujours, hein, le si, Si tu es enfant de Dieu, ceci et cela aussi. Hein? Si tu es serviteur de Dieu, ceci et cela. Il y a tellement de choses qu'il nous souffle à l'oreille. Et il le plaça donc sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et il disait des choses vraies, voyez-vous, hein? Et puis souvent, bien, il va utiliser la parole de Dieu, le diable va utiliser la parole de Dieu pour, évidemment, des demi-vérités, pour, évidemment, nous essayer de nous déstabiliser et poser des gestes qu'il ne faut pas. Vous êtes d'accord? Alors, il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges. À ton sujet, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est écrit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et puis le diable lui dira, tu vois, je vais te donner toutes ces choses-là, si tu te prosternes devant moi. On me disait dernièrement qu'une grande vedette que vous connaissez, je ne la citerai pas par le nom, mais qui a tellement réussi et est devenue une artiste mondialement connue. Mais ce qu'on a su aussi, c'est que cette personne est en train de trafiquer avec le diable. Et au travers de toutes sortes de choses qu'elle fait, elle a aussi donné son âme au diable. Et alors, celui-ci, évidemment, le fait prospérer, voyez-vous. Et parfois, on s'interroge comment, tout à coup, une personne qui est inconnue est propulsée dans le monde. Et puis, on ne se rend pas compte que derrière cela, il y a évidemment les influences des ténèbres. Et le diable donnera du succès, éventuellement. Amen. Quelle sera l'issue de tout cela? Ben, Dieu seul le sait. Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. Mais Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » J'aimerais qu'on donne un bon applaudissement et un bravo au Seigneur Jésus, amen, parce qu'il a eu la réplique. Et le diable n'a pas su réellement le détourner de la vérité. Amen. Il n'a pas réussi à le détourner de son Père et de sa volonté. Mais il s'est essayé et puis il a dit bien qu'il allait prendre le temps de toute façon, il va observer les choses et plus tard, dans une prochaine occasion, il s'essaiera encore. Amen. Mes amis, quand on a passé au travers d'une épreuve, lorsqu'on a traversé une situation brillamment et puis que nous avons les applaudissements éventuellement de notre entourage, on s'applaudit soi-même parce qu'on a traversé éventuellement une épreuve, courageusement, brillamment, eh bien, dites-vous une chose, que l'ennemi s'essaiera un autre tantôt de vous éprouver à nouveau, de vous tester, de voir si réellement vous êtes dans la foi, si réellement ce que vous dites avec votre bouche est réellement bien, bien ancré en vous, mais s'il trouve une faille, il va vous déstabiliser, mes amis. Il va essayer d'enlever votre joie. Il va essayer de vous empêcher donc d'aller plus loin. Alors le diable donc le laissa. Mais voici que des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Mais je pense qu'à ce moment-là, lorsque nous passons au travers, les anges aussi nous servent et puis nous applaudissent et nous disent « Bravo, tu es passé au travers. » Maintenant, écoutez, on s'interroge parce que il y a des choses parfois étranges qui se passent. Tout à l'heure, j'ouvrais ma Bible dans le livre de Job. Et là, je lisais ceci. Il y avait dans le pays d'Utz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détourner du mal, etc., etc. Maintenant, voyez-vous, cet homme-là, c'était un homme qui était intègre, un homme qui aimait Dieu. Et on s'interroge, mais comment se fait-il que Dieu a permis ou a donné la permission à l'ennemi de toucher à cet homme? Il y avait une telle confiance en Dieu. Et Dieu avait une telle confiance en lui qu'il a dit tout simplement à l'ennemi, « Vas-y, mais je sais que cet homme est intègre. Je connais son cœur. Mais fais-en la preuve. » Et nous savons que Job a été touché dans ses biens. Il a été touché au niveau familial. Il a perdu beaucoup de choses, même la santé. Mais au travers de tout cela, et au travers de tous ses discours et de tout ce qu'il a dit et prononcé, au travers de tout ce qu'il a vécu, eh bien, on se rend compte que même il est écrit qu'il ne pécha point. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, ses réactions, ses attitudes ont réellement démontré que ce que Dieu pensait de lui était réel. C'est certain que Dieu connaît les cœurs, hein, et Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Il est capable très rapidement d'évaluer qui nous sommes, mais le diable aussi est capable d'évaluer, n'est-ce pas? Sauf, ici nous nous rendons compte que l'ennemi a essayé de détruire, de déstabiliser cet homme, mais sans y réussir. Nous étions à l'église, belle soirée de prière, et nous n'étions pas dans une salle de danse, nous n'étions pas dans une taverne, nous étions à l'église. Et là, nous venions d'adorer le Seigneur et de célébrer, enseigner le peuple. Et nous rentrions à la maison. Et tout à coup, voici un auto de pompiers qui nous double. Alors, on laisse le camion passer, on se met sur le côté, puis on se pose la question, mais où est-ce qu'ils vont? Où c'est qu'il y a le feu? Alors, on a continué encore et encore, et puis on arrive juste à notre rue. Et en tournant la rue, qu'est-ce qu'on voit? Les pompiers chez nous. Alors, voyez-vous, c'est que on arrive devant la maison, et là, les pompiers sur le toit, évidemment, avec la grosse scie à chaîne. Ils sont en train de faire des trous dans notre toiture pour essayer d'aller voir où était le feu. Et le feu était dans les murs. C'est un condo, et puis le condo d'en dessous avait pris feu, et puis le feu était monté dans les murs, et puis c'était arrivé chez nous. Et c'était propagé partout, et il y avait évidemment la fumée, puis c'était... Le pompier qui nous a parlé nous a dit plus tard, 5 minutes plus tard, il n'existait plus rien de faute chez vous. Et le pompier en chef est monté dans notre appartement, puis comme il est rentré, il a dit à ses hommes, « Oh là là, il y a quelque chose de spécial dans cette maison. Wow. Prenons toutes les précautions qu'il faut pour ne rien détruire. » C'est spécial, n'est-ce pas? C'était notre condo. Il n'y avait pas notre présence, mais il y avait la présence de notre Dieu qui veillait. Alléluia. Et ils étaient stupéfaits de voir qu'il n'y avait pas plus de dégâts, sinon que, évidemment, la fumée qui avait envahi toute la maison, et puis il y avait des flammes dans les murs, bien sûr, mais ça n'avait pas atteint l'intérieur. C'était comme gardé. Et nous avons récupéré tous nos meubles, tous nos objets, sauf quelques-uns, volé sans doute par ceux qui nettoyaient. Amen. C'est comme ça que ça se passe. Alors tu t'interroges, je dis, mais Seigneur, pourquoi avoir été touché? Parce que cela nous a mis 6 mois en dehors de la maison, évidemment, parce qu'il a fallu tout rebâtir l'intérieur. Et dis, Seigneur, nous étions dans ta maison, nous étions en train de te louer, et nous étions en train d'enseigner ta parole, et puis voici, pendant tout ce temps-là, le diable est en train de mettre le feu chez nous. Là, on s'interroge des fois, n'est-ce pas? On se dit, mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi, n'est-ce pas? Juste pour déstabiliser votre foi, juste éventuellement pour que vous puissiez simplement lever le poing vers Dieu. Hello. Et au travers de tout ça, eh bien, mon épouse était là en bas. Évidemment, on ne pouvait pas rentrer dans le condo. Et là, il y avait les voisins du dessous. Et les voisins du dessous, eux, ben, c'était un peu plus détruit, brûlé à l'intérieur. Et mon épouse avait cette dame dans ses bras pour la consoler. Elle n'en revenait pas parce que dans le fond, on avait brûlé là-haut parce que ça avait brûlé en dessous. Alors, c'était un peu de leur responsabilité qu'on vivait cela, mais tellement, touché du fait même que nous la consolions, amen, alors que nous avions besoin d'être nous-mêmes consolés. Mais au travers de cela, bien, on s'en est fait des amis. Ce sont des gens qui ne croyaient pas en Dieu et qui ne croient pas probablement encore en Dieu, mais nous en nous sommes fait des amis. Et aujourd'hui, alors qu'auparavant, bien, il n'y a pas de grands beaux jours qui sortaient de leur bouche, eh bien, aujourd'hui, bien, il y a une amitié qui est là. Bon, peut-être pas à la façon d'amis de Dieu, mais quand même, une amitié qui est là et qui nous permet de pouvoir témoigner vraiment quand même notre foi et qui nous sommes en Jésus-Christ. Nous ne savons pas qu'est-ce que Dieu va faire, mais j'aimerais vous dire que pour vous, chers enfants de Dieu, eh bien, je crois que nous sommes, comme l'Écriture nous le dit, criblé parfois dans notre foi. Dans Luc 22, verset 31, il dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, voici, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Alors, je ne sais pas si c'est ça que vous vouliez entendre ce matin, mais un jour ou l'autre, vous allez passer par le crible. Dites-moi, amen au moins. Vous allez être éprouvé un jour. Il faut que vous puissiez dégager toute votre foi et votre amour et la grâce que Dieu a mis en vous. Il faut que ça ressorte dans les moments les plus sombres, les plus difficiles, courageusement et avec les réactions que nous allons avoir, nous allons démontrer réellement à la face du monde, mais aussi à la face de l'ennemi. Amen. Qui nous sommes en Jésus-Christ. Amen. Maintenant, lorsque nous avons l'épreuve de la foi, c'est sûr que ce n'est pas toujours facile à accepter. Mais nous sommes dans une société, mes amis, qui n'est pas facile. Une société que moi je regarde, une humanité où le péché n'a jamais été autant répandu dans le monde. Nous sommes dans ce monde tout en n'étant plus de ce monde. Mais il reste que nous sommes environnés de circonstances et de faits que nous écoutons, que ce soit la radio ou la télévision, des choses qui nous disent « Mine, c'est impossible que cela puisse être vrai ». Des choses qui se produisent, qui réellement nous affectent indirectement. L'humanité est pécheresse et le péché est répandu sur toute la terre et Satan est comme les ennemis d'Israël qui a dit aux Juifs de se prosterner devant lui par toutes sortes d'idolâtries. Et Satan dit, je vais utiliser aussi, ou en tout cas je vais essayer d'utiliser votre vie contre ce Jésus que vous proclamez. S'il peut utiliser un enfant de Dieu par une inconduite, par une action, par des propos qui vont réellement détruire la réputation du Seigneur Jésus et de votre foi, eh bien c'est un atout qui se trouve dans les mains de l'ennemi et je crois réellement que c'est ce qu'il est en train de faire. Lorsque je regarde dans l'église de Jésus-Christ, je me promène un peu plus aujourd'hui, je vois ce qui se passe dans l'église de Jésus-Christ à gauche et à droite. Je me suis réjoui en rentrant dans cet endroit et en vous écoutant et en vous voyant louer le Seigneur, je me dis, mince, c'est une église qui est dans la victoire. Mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas comme ça partout. Et je me rends compte que l'ennemi a fait du dégât, que l'ennemi a touché, a réussi à toucher, même des éminents serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, qui n'ont pas pu résister au bon moment lorsqu'il fallait réagir de la bonne façon et faire les bonnes choses, ils sont devenus des instruments dans les mains de l'ennemi pour déshonorer notre chef suprême, Jésus-Christ. Qui va-t-il utiliser d'autre que vous et moi? Nous détenons la parole de Dieu, la vérité entre nos mains et dans nos cœurs. Qui va-t-il utiliser d'autre que vous et que moi pour déstabiliser et déshonorer le nom de Jésus? Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui un peu partout et où l'Esprit de Dieu s'est retiré, je dirais, discrètement. J'ai vu même sur certaines portes d'église, durant toute la période de l'été, eh bien fermées pour cause de vacances. Nous regardons un peu comment ça se passe aujourd'hui et où on est chronométré et où on est tellement pressé aujourd'hui qu'on vient à la vite ou à la sauvette dans la maison de Dieu et on vous dit, vous avez 30 minutes pour apporter le message. Votre pasteur ne m'a pas dit cela. Il m'a dit, prends tout ton temps. Alors là, je sais que nous sommes dans une église de réveil. Amen. Prends tout ton temps et puis dis ce que tu as à nous dire. Mais dans certains endroits où je passe, eh bien, on se rend compte que vous êtes très limité dans la prédication. Et puis, c'est quelques cantiques, et puis c'est l'offrande. Et puis ensuite, c'est la prédication. On vous donne 30 minutes. Et puis, vite, vite, le pasteur prend le micro, fait la prière finale, et tout le monde retourne chez soi. Et souvent, on passe plus de temps au restaurant qu'à l'église. J'aime la maison de Dieu. Oh, je ne vous entends pas. J'aime la maison de Dieu. J'aime la présence de Dieu. J'aime être dans ce lieu ici ce matin. Il n'y a aucun endroit autre que celui-ci dans lequel j'aimerais être. Je crois que c'est l'endroit qui est réservé pour un peuple comme vous qui aime le Seigneur. Pour venir l'adorer, le célébrer, dire « Seigneur, prends ton temps et je vais prendre le temps avec toi ». Mais malheureusement, eh bien, on se rend compte que ce n'est plus cela aujourd'hui dans bien des endroits. L'ennemi s'est déchaîné d'une façon ou d'une autre avec toutes sortes de choses qui sont produites. Il y a le découragement qui est pris parmi les fidèles, les enfants de Dieu, parmi les pasteurs aussi. Et l'ennemi s'acharne pour déstabiliser et détruire l'Église de Jésus-Christ. Le vrai témoignage de l'Église, c'est lorsqu'elle est remplie, bien sûr, de la présence de Dieu, lorsqu'elle est remplie de la gloire de Dieu, lorsqu'il y a une présence qui remplit un lieu comme celui-ci, amen, et où il y a des cœurs qui sont tellement ouverts, assoiffés, et qui disent, donne-nous encore, pasteur, enseigne-nous la vérité, nous buvons ce que tu nous dis, nous avons faim de Dieu, nous avons faim de l'Esprit-Saint, amen. Et lorsque nous avons faim et soif, eh bien, si quelqu'un vient au Seigneur Jésus avec cette soif, eh bien, évidemment, Dieu va étancher cette soif. Et si vous soupirez après ces eaux vives de l'Esprit, alors soyez assurés que vous allez voir des choses magnifiques qui vont se produire. Satan savait comment utiliser la parole avec Jésus. Et il sait le faire aussi avec vous, comme avec moi-même. Il a éprouvé Jésus, il a tenté Jésus, alors il vous tentera aussi. La tentation ne vient pas de Dieu, mais l'ennemi tente. Hello? Vous serez tenté d'une manière ou d'une autre. L'ennemi va s'essayer de vous tenter. Il va essayer de vous faire perdre, disons, la direction claire de la parole de Dieu. Et c'est ainsi qu'il a essayé que Jésus puisse se prosterner devant l'ennemi pour avoir certains gains. Et lorsque nous n'avons pas le courage de faire face aux propos de l'ennemi, lorsque même nous avons une oreille attentive à ce qu'il nous chuchote pour nous faire dévier, eh bien, je crois que c'est comme si aussi nous nous prosternons devant lui. Nous lui donnons force à ses paroles. Nous lui donnons force à ce qu'il dit et en résultent aussi les résultats, les actions. Jésus était radical et nous devons être radical avec lui. Amen. Nous devons être radical et pour être radical, il faut connaître la parole de Dieu. Il faut savoir ce que Dieu veut de nous. Il faut se laisser enseigner, il faut se laisser former pour que nous puissions aussi répliquer. Amen. Si nous n'avons rien à dire à l'ennemi lorsqu'il vient vers nous, chez nous, dans nos maisons, lorsque nous sommes bafoués dans notre maison même. Regardez comment il s'introduit dans nos maisons aujourd'hui. Vous savez de quelle façon qu'il s'introduit. Il s'introduit par nos enfants parfois, alors qu'ils prennent la drogue ou bien qu'ils font une vie de débauche. Et dans la maison, c'est la dispute, c'est les querelles, c'est toutes sortes de choses qui se passent. Et on n'a pas l'ambiance propice pour pouvoir réellement adorer. Vous êtes toujours là? Lorsque nos écrans de télévision sont ouverts, qu'est-ce que nous regardons? Qu'est-ce que je vois? Je n'ose plus ouvrir la télévision. Si je l'ouvre, c'est pour regarder des documentaires éventuellement ici et là. Et puis, peut-être pouvoir faire des voyages. Pourquoi pas? Et de voir quelque chose de plus beau. Qu'est-ce qu'on nous montre à la télévision? L'homosexualité. Tout ce qui est sexy. Il y a tellement de débauches aujourd'hui au petit écran. Au grand écran maintenant. Ce n'était pas assez avec le petit écran. Maintenant, c'est le grand écran. Et il y a encore plus grand encore. Et on rentre cela dans nos maisons, et puis on est là devant toute la saleté, je dirais, que l'ennemi nous lance au visage pour nous séduire. Amen. Je bénis Dieu pour les maisons où il n'y a pas de télévision, où je suis, eh bien il semble qu'il n'y a pas de télévision, c'est parfait. Amen. C'est réellement parfait. Je me suis dit, mais il n'y a pas de télé ici. C'est spécial. Mais même, vous savez, ouvrez le journal et puis vous allez vous rendre compte, il y a tellement toutes sortes d'ops terribles que nous lisons dans les journaux. Même cela, il faut se méfier. L'horoscope et tout le reste aussi. Toutes les influences de sorcellerie qu'il y a au travers de tout cela. Mes amis, allô? Voyez-vous sournoisement comment l'ennemi vient chez nous? Tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, dans nos lectures, dans ce que nous regardons, dans ce que nous écoutons. Amen. Et ainsi donc, eh bien, comment allons-nous répliquer à tout cela? Souvent, j'aimerais vous dire que quand on se laisse piéger, c'est parce que notre esprit est pauvre. Notre âme est souvent malade. Et que notre âme a besoin d'être soignée. Lorsque nous sommes malades de l'âme, on a le mal de l'âme. Vous avez déjà entendu l'expression? Malade de l'âme. Vous savez, quand on ne file pas, quand ça va mal à l'intérieur, quand tout devient sombre et où il y a une domination externe sur nos vies et sur nos âmes, lorsque nous sommes pris dans le péché, parfois dans le désordre différent, et vous savez de quoi je parle, non? Vous le savez parce que l'Esprit vous le dit. Mais souvent, mes amis, quand ces choses se produisent et que nous ne pouvons pas répliquer à cela, c'est parce que nous manquons d'Esprit Saint. Nous manquerons de l'onction de l'Esprit qui nous donne la force. Ce n'est pas par la puissance ni la force humaine, mais c'est par mon Esprit, dit l'Éternel. Nous ne pouvons pas faire la guerre au diable avec nos propres forces. Nous ne pouvons pas combattre toutes ces tentations externes. Et je peux vous dire que le diable est expert dans la matière, le visuel. Amen. Et tout est tellement bien présenté maintenant. Et entre chaque programme, il y a toutes sortes de publicités, souvent mensongères aussi. Hein, on vous propose, on vous promet le beau temps et puis le soleil. Et puis des fois, vous arrivez là, puis il y a l'ouragan qui souffle. Allô? Oh, mes amis, le diable, on l'a dit au début, c'est le menteur. Et il nous fait miroiter n'importe quoi, il nous dit un peu n'importe quoi, si nous ne sommes pas prêts vraiment à pouvoir lui faire face. Amen. Nous avons besoin donc d'être remplis du Saint-Esprit, mes amis, aujourd'hui dans notre société, pour faire face à toute cette oppression externe, à tous les mensonges de l'ennemi. Et nous, les hommes, femmes, on est facilement piégés, n'est-ce pas? Ou pas. Tout dépendant le contenant et du contenu. Amen. Tout dépendant ce qu'il y a en nous. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. S'il y a une abondance d'Esprit Saint en moi, je vais avoir cette abondance aussi qui va pouvoir jaillir et qui va faire face à l'opposition, qui va faire face aux menteurs. Mes amis, je répète ce que je suis en train de vous dire depuis tantôt. L'ennemi ne vous aime pas. L'ennemi ne m'aime pas, mais qu'il sache que moi non plus, je ne l'aime pas. et que Dieu ne l'aime pas. Et qu'il a déjà pris la victoire sur lui. Alléluia. Et qu'il est sous nos pieds. Parce qu'il est sous les pieds de Jésus. Et puisque Jésus est en moi, bien, il est sous mes pieds aussi. Donnez un bon applaudissement au Seigneur. J'ai besoin vraiment de la puissance du Saint-Esprit. Nous n'avons pas à nous prosterner devant le diable parce que nous avons le pouvoir par l'onction du Saint-Esprit qui va briser ce joug de la peur qui parfois saisit nos cœurs au travers de tout ce que nous vivons. Je sais que je ne peux pas prêcher sans le Saint-Esprit. Je sais que je ne peux rien faire de moi-même. Mais béni soit le Seigneur de ce que je peux faire toutes choses par Christ qui me fortifie. Alléluia. Et je ne peux que m'incliner devant lui, non pas devant le diable, mais je m'incline et je m'agenouille devant la seigneurie du Seigneur, car ma vie lui appartient. Et à l'ennemi, je lui dis non, arrière de moi, Satan. Lorsque tu viens contre moi avec ta fourberie, avec ton mensonge, avec ta haine, eh bien, je viens contre toi avec la parole de Dieu et avec l'Esprit qui est en moi. Amen. Amen. Mes amis, ils ont besoin de résister. Il dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Nous avons besoin donc de résister, mes amis, face à l'adversaire. Le diable a un seul endroit où être dans votre vie, et c'est d'être sous les pieds de Jésus-Christ qui vit à l'intérieur de vous. Amen. Cher pasteur qui est ici, et puis bien d'autres qui sans doute verront cette vidéo par Internet peut-être, eh bien, comment l'ennemi est rusé puis essaye de vous déstabiliser, de déstabiliser votre foi. Parce qu'il y a souvent les choses qui n'iront pas toujours dans le même sens que vous pensez. Il y aura toujours des obstacles, des difficultés, des choses que l'ennemi permettra pour vous décourager. Mais j'aimerais vous dire ce matin, prenez courage. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Enfants de Dieu, c'est la même chose pour chacun de vous. Toutes ces années-là ont été vécues avec foi et courage, mon épouse et moi. Mais nous avons dû compter sur la grâce de Dieu. Amen. Nous ne pouvons pas nous prosterner devant l'ennemi. Jésus ne l'a pas fait. Il lui a répliqué. Nous devons venir devant le Seigneur cherchant sa face et rechercher un renouvellement intérieur. Je m'interrogeais ce matin à vous entendre. Je me disais, Seigneur, pourtant, tu m'as donné ce message. Est-ce qu'ils ont réellement besoin de renouvellement et d'onction? Il me semble qu'ils ont tout, mais parfois c'est juste d'apparence. Et puis d'apparence, c'est ainsi, mais intérieurement, pourtant, bien, c'est problématique. Il y a, vraiment, c'est dur. Et on a réellement besoin d'un renouvellement de l'esprit. Amen. Nous avons besoin que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous rejoigne dans notre fort intérieur et nous rende costauds pour lui. Nous avons besoin d'être défensifs. Mais aussi, nous devons être des personnes qui allons vers l'ennemi, comme David l'a fait avec Goliath. Il s'est lancé vers Goliath. Il n'a même pas attendu que ce Goliath immense vienne vers lui. Il est allé, il a couru vers lui. Amen. Amen. Alors, nous démontrons, à ce moment-là, évidemment, du courage, mais aussi de la foi. Alléluia. Alors, c'est l'onction qui brise le joug de l'oppression, du doute, de la peur. Amen. Mon frère, ma sœur, ne laissez pas l'ennemi vous faire prosterner devant lui. Il va hurler à vos oreilles. Je ne sais pas s'il a hurlé aux oreilles de Jésus, mais il a dû se donner à cœur joie pour essayer de déstabiliser la foi de Jésus. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui aussi avec nous. Il nous crie aux oreilles. C'est souvent là, juste là, c'est là que ça se passe. Et il nous criera toutes sortes de choses à nos oreilles pour nous soumettre et nous demander tout simplement de nous prosterner devant lui et le servir. Oh, c'est sûr, je pense que la plupart d'entre nous jamais on donnera notre âme au diable. Mais il y a d'autres façons de faire, voyez-vous. Il y a d'autres façons que nous pouvons faire et être par nos comportements, par nos gestes, par nos propos, et où nous démontrons que nous lui donnons, dans le fond, du mérite. Alors, il faut faire très attention, il faut être vigilant. Il n'y a qu'un seul remède, c'est de nous placer devant le Seigneur. Un seul remède, c'est aussi de confesser nos péchés, nos attitudes, nos mauvaises motivations, de mauvais regards, de mauvais propos, que sais-je encore. Ce ne sont pas souvent des grandes choses, peut-être, mais pourtant c'est la désobéissance. Monsieur Moody a tenu un verre, alors qu'il était en public, a tenu un verre et a demandé « Comment puis-je sortir l'air de ce verre ?» Et un homme a crié, ben, en l'aspirant avec une pompe. Moody a répondu « Cela créerait un vide et briserait le verre. » Après de nombreuses autres suggestions, Moody sourit, ramassa une cruche d'eau et remplit le verre. Et il dit, voici, toute l'air est maintenant supprimée. Amen. Remplissez votre vie. Remplissez votre vie de Dieu. Remplissez votre âme, vos pensées de Dieu. Et tout le reste va être extirpé. Confiez votre vie au Seigneur Jésus. Donnez-lui les droits qui lui reviennent sur votre vie. Et vous allez voir qu'il va faire la différence. Amen. Parfois, nous essayons par nos propres forces de pouvoir changer certains aspects de notre vie, mais nous ne pourrons jamais parce que nous sommes encore humains et trop souvent charnels. Alors, nous avons besoin de l'intervention de Dieu surtout. Nous avons besoin de l'intervention du Saint-Esprit. Et quand nos vies sont remplies du Saint-Esprit, il n'y a plus de place pour la chair. Amen. Ou en tout cas, nous ne lui permettons plus à cette chair de prendre les devants. Nous laissons le Saint-Esprit contrôler nos vies. Et nous allons dans son sens à lui. Alléluia. Mes amis, j'ai besoin d'un rafraîchissement. J'ai besoin d'un renouveau. J'ai besoin de me tenir dans la présence de Dieu régulièrement, chaque jour, et pour me ravitailler de cette eau vive, de son esprit. Vous avez besoin de la puissance de l'Esprit Saint pour surmonter les assauts, donc des attaques de l'enfer qui viennent contre vous, qui viennent contre l'Église. Nous devons chanter des chants de louange, d'adoration, et c'est une bonne chose. Mais cependant, nous avons besoin aussi d'un baptême dans l'Esprit Saint. Si vous voulez être un guerrier dans l'armée de Dieu et nettoyer de tout péché dans votre vie, eh bien, il y a la repentance, bien sûr, mais ensuite, il y a le remplissage. Le remplissage d'une vie de cette eau vive du Saint-Esprit. Amen. Vous voyez que ça se continue, vous lisez les actes des apôtres, et vous regardez cela et vous voyez que c'est bien cela, la repentance et ensuite le remplissage. Hein? On se vide d'abord de tout ce qui est impropre, de tout ce qui est impur, et on laisse l'Esprit Saint, amen, l'Esprit Saint, rentrer, pénétrer notre vie, et nous le laissons agir. J'ai besoin d'un rafraîchissement. J'ai besoin d'une inondation de l'Esprit. Alléluia. Et je me souviens, lorsque nous étions dans l'église que nous avons servi pendant 20 ans, en 1994, quelque chose s'est produit dans l'église qui m'a bouleversé. Moi, je ne suis pas un pasteur, je n'étais pas un pasteur, je ne le suis pas encore, très exubérant, puis sauteux, et puis, mais mes amis, mais lorsque l'Esprit vous saisit, wow! Dites avec moi, wow! Lorsque l'Esprit de Dieu vous saisit, mes amis, et c'était en 1994, et mon épouse était en Europe à ce moment-là, près de ses parents, et puis là, je lui dis, Violette, réveille dans l'église. Ah, elle était jalouse, elle aurait bien voulu être là pour vivre ce qu'on était en train de vivre. Mais bon, j'ai pu lui raconter un tout petit peu comment l'Esprit de Dieu, tout à coup, est descendu et est venu nous toucher. Il y avait 200, 250 personnes dans la place. Mes amis, vous le croyez pas, moi je vous dis que moi j'étais spectateur des œuvres du Saint-Esprit. Vous savez, quand l'Esprit travaille, tu peux juste regarder et tu te dis, waouh, Dieu est en train de faire des grandes choses. Dieu fait des merveilles. Alléluia. Une telle présence. Mes amis, s'il y avait une telle présence dans les églises que j'ai parlé tout à l'heure, on ne fermerait pas les portes des églises. Amen. Et on prendrait beaucoup plus de temps dans sa présence. Je me souviens que souvent l'église, les réunions étaient cédulées pour 7h30, 6h30, il y avait déjà du monde en train de prier puis d'adorer le Seigneur. Et alors les gens qui rentraient disaient, mais c'est déjà commencé. Non, c'est pas encore commencé. Mais déjà le Saint-Esprit se mouvait et agissait. Une telle présence. Et mes amis, eh bien, je peux vous dire que vous n'avez pas hâte de quitter les lieux. Il y a des gens qui sortaient 1h, 2h du matin, ivres du Saint-Esprit. Est-ce que c'est biblique, ça? C'est discutable, hein? Pour certains, en tout cas, mais plus pour moi. Pour certains, c'est discutable, mais plus pour moi. Quand vous voyez les œuvres de Dieu, bien, vous êtes enthousiasmés par les œuvres du, non pas de la chair, mais du Saint-Esprit. Avec un peu de discernement, eh bien, vous pouvez vous apercevoir que ça, c'est l'Esprit de Dieu. J'étais en Europe au mois de juin, puis nous étions dans une église africaine. Et là, tout à coup, il y a eu un mouvement dans la salle. Et une personne, une dame, a commencé à intercéder. Et puis, elle a intercédé. Puis, tout à coup, l'intercession est devenue tellement forte que ça s'est promulgué, je dirais, ou transmis plutôt, et à côté, puis là-bas, et tout à coup, l'Église tout entière était en train vraiment d'intercéder devant le trône de Dieu. Une intercession fervente. Le pasteur de l'Église est aveugle. Alors, moi, je voyais ce qui se passait dans la salle. Alors, je suis allé voir le pasteur, il était là, sur l'estrade, et je dis, pasteur, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'évidemment, il y avait aussi des manifestations, il y avait des démons qui se manifestaient, il y a même une personne qui a été projetée dans les chaises juste en face. Vous savez, c'est des choses spectaculaires. Mais vous savez, quand il y a l'Esprit de Dieu, eh bien, il y a des choses comme ça qui se passent. Il me semble que des fois, les démons sont trop confortables parmi nous. Il y a une question à enseignemoi.com que j'ai lue. Et puis quelqu'un pose la question, comment se fait-il qu'il n'y a plus de démons dans les églises? Il n'y a plus de manifestations. Je n'ai pas répondu à cette question-là, je le dis parce qu'il manque de l'esprit. S'il y avait la présence de Dieu, s'il y avait la gloire de Dieu, les démons se manifestent. Allô? Ça ne veut pas dire qu'il y en a ici. Mais si quelqu'un rentre dans une salle comme celle-ci, et où il y a la gloire et la présence de Dieu manifeste, alors le diable ne peut pas rester en présence de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ainsi que nous rentrions dans la salle, mon épouse et moi, je me souviens, c'était flagrant. Nous rentrions dans la salle, et il y avait des gens qui avaient des démons, et les démons étaient chassés sans qu'on les touche. Amen. Mais c'est extraordinaire, non? Il n'y a pas de fatigue. Quand je vois des fois les chasseurs de démons, et puis ils crient fort, plus fort encore, il n'y a rien qui se passe. Souvent, parce qu'il manque de puissance, il manque d'Esprit Saint, il manque de la présence de Dieu. C'est parce que souvent, toute la place est donnée à l'homme. Vous saisissez? Et lorsque on laisse toute la place au Seigneur, alors watchez-vous, comme on dit, hein? Watchez-vous, parce que le Seigneur va faire des choses magnifiques. Watchez-vous ici ce matin. Faites attention à vous ce matin, parce que Dieu est capable de le faire. Si vous êtes en train réellement d'absorber, de boire ce que je suis en train de vous enseigner, eh bien, il y a une soif qui va être grandissante. Non seulement ce matin, mais après-midi. Et puis, vous risquez de voir des choses magnifiques. Il y avait des gens, dans ces années-là que je vous ai parlé, ça a duré quelques années, et jour après jour, il n'y avait jamais assez de réunions. Il fallait des réunions tous les jours. Et les gens venaient dans la présence de Dieu. Ils venaient s'imbiber dans l'huile du Saint-Esprit. Alors, il y avait des belles choses. Et les gens accouraient de partout pour voir ce qui se passait. Amen. Et puis dans cette ivresse des fois du Saint-Esprit, il fallait ramener les gens à la maison tôt le matin, sous les bras. Et puis comme ça, avec cette ivresse du Saint-Esprit, il y avait la police à un certain moment qui a vu ça, qui est venue nous interroger pour nous demander qu'est-ce qui se passait. On leur a expliqué, mais ils n'ont pas tout compris. Il fallait réellement connaître l'expérience pour savoir de quoi on parlait. Hein? Mais c'était vraiment une ivresse du Saint-Esprit. Et je me dis, mais il n'y a rien de différent. Vous lisez les fameux réveils de l'époque. Il y avait ces choses-là, mes amis. Amen. Et puis, vous regardez les actes des apôtres. Bien, il y avait cela. Ils étaient remplis et ivres du Saint-Esprit. Est-ce qu'on a besoin de ça aujourd'hui? Certains diront, ben non, moi je m'accommode très bien avec ce qu'on a, puis il ne m'en faut pas plus. Du moment que je vais au ciel, ben tout est beau. Mais quand vous devez faire face à l'ennemi, si vous n'avez pas les réserves et les ressources pour lui faire face, Jésus avait les ressources. Amen. Job avait les ressources. Et il est passé au travers de toutes ces épreuves, l'une après l'autre. Vous voyez tellement de gens aujourd'hui laissés pour contre, et brisés, agonisant même, et laissant l'Église, et même parfois Jésus-Christ, parce qu'ils n'ont pas pu répliquer à l'ennemi. Vous saisissez? Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire, ben, faites attention, parce que ceci, cela, je ne veux pas vous faire peur, mais je veux juste vous mettre en garde. Amen. Au moment où vous devenez dangereux pour son royaume à lui, au royaume de Satan, quand vous devenez dangereux, à ce moment-là, il se manifeste. Et il vient contre vous. Maintenant, je vous dis cela parce que c'est comme ça. Ça ne doit pas nous épeurer parce que nous avons... Celui qui est en moi est plus fort et plus grand que celui qui est dans... Amen. Amen. Alors, mes amis, je pense que nous avons juste besoin de nous fortifier et puis de réclamer un temps de rafraîchissement. Nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit pour briser ce joug. Et nous engager dans la foi. On peut faire toutes les résolutions que nous voulons. On peut faire toutes sortes de vœux à Dieu. Mais rien d'autre que la puissance du Saint-Esprit dans votre vie apportera la victoire dont vous avez besoin. Amen. Que vous avez besoin, que j'ai besoin. Je répète, Zacharie... Ce n'est ni par la force, ni la puissance, Zacharie 4, verset 6, ni par la force, ni par puissance, ni par la force, pardon, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Oh, alléluia. Mes amis, je suis outré, je vous le dis, je suis attristé de voir comment ça fonctionne aujourd'hui. Ici et là, nous entendons des beaux témoignages de ce que Dieu est en train de faire, mais aussi on entend les témoignages des dégâts que l'ennemi fait. Amen. Vous avez besoin de cette onction du Saint-Esprit. Cette onction du Saint-Esprit brise le joug. Brise le joug de l'esclavage. L'esclavage du péché. Nous avons besoin de cette onction sur nos vies, cette force, cette dynamite de Dieu pour faire exploser ces rochers, ces montagnes qui souvent viennent devant nous. Je vais vous en parler cet après-midi. Venez entendre ce message. Nous avons besoin du souffle de Dieu surnaturel et qui vient pour détruire, faire exploser, je dirais, les montagnes qui se trouvent devant nous. Nous avons besoin de voir Dieu intervenir dans nos propres vies, dans nos situations. Mes amis, il y a trop de gens chrétiens, peuple du Seigneur, qui souffrent aujourd'hui. Il y a trop de personnes qui sont angoissées, vivent dans la peur. Est-ce qu'on a à avoir peur? Avons-nous le droit même d'avoir peur? Mes amis, des fois on a peur de tout et on a peur de rien. Hein? Moi je me souviens, moi un jour j'ai eu peur de mon ombre. Plus j'avançais, plus mon ombre me suivait. Alors je courais pour me sauver de mon ombre. Ah, mes amis, nous avons tellement besoin de Dieu dans ce temps dans lequel nous vivons. Hein? Amen. Je termine bientôt pour ce matin. Mais Ésaïe 59, verset 19, dit « On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » Amen. Voilà ce qui met en fuite l'ennemi. C'est l'esprit de l'Éternel. Alléluia. Qu'est-ce qui va donc repousser les puissances de l'enfer, de votre propre cœur, de votre vie, de vos yeux, de vos oreilles? C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'onction du Saint-Esprit qui va briser le joug du péché, élever ainsi la bannière de la croix de Jésus-Christ, tachée de sang. C'est la puissance du sang de Jésus et l'onction du Saint-Esprit dans votre vie qui vous apporte la victoire dans toutes ces choses. Vous savez de quoi je parle sans doute. Ésaïe 10, verset 27. « En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. » Amen. L'Esprit Saint, l'huile d'onction. J'ai oublié d'appeler votre pasteur, je lui aurais demandé de m'apporter de l'huile. Amen. Si quelqu'un est malade, nous dit Jacques, qu'il fasse appel aux anciens. Amen. Et il est question d'une onction d'huile pour les malades. J'ai retrouvé la même chose, la même formule dans l'évangile de Marc. Ce n'est pas seulement pour les malades dans la chair, mais ce sont aussi malades dans notre esprit, malades dans nos âmes. Et nous sommes infectés et affectés par tellement de choses. Et le diable nous lance ses mensonges, tu n'arriveras plus, tu ne pourras jamais t'en sortir. Et puis il nous dit toutes sortes de mensonges. Et puis ça s'infiltre dans notre esprit. Et là, nous devenons tellement vulnérables. Vous me suivez, mes amis? Tellement vulnérables. Et c'est là où nous avons besoin de cette huile d'onction. Amen. Une huile d'onction. Mettre dans notre huile les malades. Et évidemment, il parle du péché aussi confessé. N'est-ce pas? Et le malade sera guéri. On a besoin de cette huile d'onction ce matin qui coule sur nos vies, sur nos âmes, dans nos cœurs, pour nous rafraîchir, guérir nos blessures d'hier, d'avant-hier, d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans. Il y a des gens qui sont blessés depuis toutes ces années-là. Et ils viennent à l'Évangile, ils viennent à Jésus-Christ blessés, meurtris, et puis ça les suit comme ça, jour après jour. Ça les ronge même la nuit. Et là, on a besoin d'une délivrance. Et là, on a besoin d'être pansé par cette huile. Amen. Blessé. Amen. J'ai besoin de cette huile d'onction ce matin sur ma vie. J'ai des blessures, moi aussi. Hello. J'ai des blessures, moi aussi. Je dis, Dieu, guéris mon âme. Guéris mes blessures. Viens-moi en être. Répands sur moi ton huile de guérison. Amen. Wow. Le pasteur, il a sa petite fiole d'huile. Mais moi, je voulais en répandre sur tout le monde. Non, non. Oh là là, mes amis, moi, j'étais tellement honteux. Un soir, il y avait un prédicateur chez nous. Puis il y avait une bouteille d'huile. Puis mes gens étaient là, à terre, et puis ils répandaient son huile sur tout. Oh, je ne dis plus jamais, je l'invite, lui. Parce qu'il fallait tout ramasser ça, tout le tapis plein d'huile, et puis tous les vêtements. Oh, aïe, non, je ne ferai pas ça pour vous, là, ce soir, ce matin. Et tu as besoin de cette onction. Amen, l'huile. L'huile d'onction, c'est une huile, et qui représente l'onction, qui représente le Saint-Esprit. Amen.
On veut juste prier avec vous maintenant. Merci Seigneur Dieu pour ton Saint-Esprit qui est avec nous, qui demeure avec nous, qui continue à faire son travail. Merci Seigneur aussi pour les gens qui reçoivent la prière maintenant. Merci Seigneur parce que tu travailles parmi nous, on te reçoit, on te célèbre Seigneur. Hallelujah. Amen.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.